Parlons d'Europe. Jacques Osler.
Bienvenue à l'écoute de Jéricho. Bienvenue Jacques Osler.
Bonsoir Jean-Louis.
Alors c'est une nouvelle formule pour Parlons d'Europe, version plus longue et étoffée de votre chronique qu'on a écoutée durant quelques années ici sur l'antenne de Jéricho et qui sera diffusée chaque mois. L'idée, vous allez me corriger si je me trompe, c'est de faire comprendre, autant que faire se peut, les enjeux de l'Europe.
Oui, et pour cela, il faut peut-être intervenir moins fréquemment, prendre un peu de distance avec l'actualité et approfondir davantage.
Eh bien voilà, c'est dit. Ce soir, votre invitée, c'est Nathalie Griesbeck, députée européenne Grand Est, mouvement démocrate. Elle est également au sein de l'Alliance des démocrates libéraux pour l'Europe, l'ADLE. Et pour ce premier rendez-vous, trois thèmes, Jacques, que vous avez retenus.
Oui, qu'on peut regrouper sous un seul titre, c'est l'Union européenne face aux grands défis de la rentrée. Alors pourquoi ? Eh bien parce que l'été a été chaud, vous le savez, et puis la rentrée risque d'être chaude aussi, parce que beaucoup de nuages se sont accumulés au-dessus de nos têtes.
Jacques, on va accueillir tout de suite Nathalie Griesbeck qui nous fait l'amitié de venir répondre à vos questions. Madame la députée, soyez la bienvenue.
Merci, je suis ravie de faire la rentrée avec vous au micro de Radio Jéricho.
Alors justement, cette thématique générale qui va bien évidemment être déclinée à travers trois volets, l'Union européenne face aux grands défis de la rentrée 2015, un sujet qui vous intéresse ?
Bien entendu, mais qui m'intéresse en y ajoutant une forme de sérénité, parce que le monde est dans une turbulence redoutable et il faut de la force pour pas seulement réagir, mais agir, et le faire dans la sérénité.
Jacques Osler.
Passer en revue les défis, d'une part, porter un diagnostic, comprendre ce que sont ces problèmes. Deuxièmement, bien sûr, réagir en termes d'action. Et c'est le cas du Parlement, c'est le cas du Conseil européen, de la Commission, etc. Et avec deux idées, d'abord une approche à court terme, parce que l'actualité nous plonge dans le court terme, mais aussi un peu de recul pour avoir une vision à long terme des solutions à apporter. Si on aborde le premier problème, le premier défi, c'est l'Union face aux problèmes économiques, essentiellement la croissance, qui devrait tirer l'emploi. Et là, à la veille des vacances, des facteurs positifs étaient rassemblés. Le pétrole coûtait moins cher, l'euro avait vu sa valeur externe baisser face au dollar. Et puis, il y avait une certaine reprise en Europe tirée un peu par les États-Unis. Donc ça, c'était avant. Et au moment de la rentrée, on s'aperçoit d'une part, si on commence par le monde, que la Chine est en train de dévisser. Donc, ralentissement chinois, et on ne sait pas de combien, il y a une indétermination. Il y a eu la chute, le krach de la bourse de Shanghai, et puis une certaine dépréciation du yuan face aux autres monnaies. Donc, il devrait y avoir des conséquences, c'est une première chose. Deuxièmement, on sait que les États-Unis sont sur le point de relever leur taux d'intérêt, mais ce ne sera pas sans conséquence sur la croissance. Alors, il reste encore des facteurs favorables. Bien évidemment, c'est le pétrole qui n'est pas cher, les matières premières qui ne sont pas chères non plus, puisque la demande mondiale diminue. Si on regarde maintenant du côté de l'intérieur, eh bien, on a vécu le feuilleton du Grexit, et finalement, la Grèce est restée. Est-ce pour le meilleur ou pour le pire ? C'est une question. Et puis, beaucoup de choses ont été initiées avant par la commission Juncker. Je ne sais pas ce que vous en pensez, madame, mais je pense que le président de la commission est un bon président, plein d'initiatives. Ceci étant, il a lancé son plan d'investissement. Où en est-on ? Qu'est-ce qui reste à faire ? L'union bancaire reste aussi à progresser et on s'aperçoit, sans entrer dans la technique, qu'il y a quand même des défauts de solidarité entre les grands pays.
Nathalie Griesbeck, donc voilà déjà un premier chapitre.
C'est un menu de rentrée, effectivement, très dense, très difficile, avec, je reprendrai la formule de Jacques Osler dans son introduction, avec pas mal de nuages qui s'accumulent. Mais souvent, le beau temps suit les nuages et moi, ma ma façon d'être, la façon dont je vis mon engagement politique m'amène à essayer de voir dans un océan de difficultés quels sont les chemins, quelles sont les pistes qu'ensemble entre Européens on peut imaginer non seulement d'emprunter mais de consolider pour répondre aux besoins de nos concitoyens. Peut-être un mot pour répondre à ce menu très très copieux des difficultés à la fois mondiales, interétatique, international, européenne, intercommunautaire, intracommunautaire, à la fois dans l'ordre économique, monétaire, mais aussi qui relève de l'ordre de la cohésion qui doit primer entre les États membres de l'Europe. Eh bien, face à tout cela, je crois que il faut réussir à distinguer quelles sont les priorités. Surtout quand, comme moi, on est simplement élu pour représenter des citoyens qui donc se préoccupent essentiellement de leur quotidien, de leur et qui ont des craintes ou des doutes sur leur avenir ou celui de leurs proches. J'ai le sentiment, peut-être est-ce simple à souligner ici à ce micro de Radio Jéricho, que la priorité des priorités, c'est l'emploi. Donc c'est d'être très ferme et très cohérent sur tout ce qui touche aux investissements, à l'innovation et à l'accompagnement de l'économie. On va sûrement en reparler. Et puis la sécurité de nos concitoyens, la sécurité interne, mais la sécurité en Europe et la sécurité internationale. Voilà, dans ce menu très copieux, ce que moi j'essaierai de tirer comme éléments principaux dans le cadre des préoccupations des Européens et de ceux qui doutent de l'Europe également.
Il y a une nouvelle idée qui apparaît en ce moment, qui a été lancée par Robert Gordon, un économiste américain, c'est la stagnation séculaire. Et apparemment, cette idée est relayée en France par de grands économistes qui ne sont pas engagés politiquement, comme Patrick Artus, un autre qui l'est un peu plus, Daniel Cohen, en disant « nous risquons une stagnation séculaire, comme au Japon, parce que mais il y a des problèmes démographiques, sauf peut-être en France. Et puis, d'autre part, le progrès technique n'est plus ce qu'il était. La dernière grande révolution industrielle au début du XXe siècle, l'automobile, l'aviation, etc., l'électricité, nous ont apporté des opportunités d'investissement avec des fortes productivités. Aujourd'hui, la révolution, elle est surtout informatique, elle peut être biologique aussi, mais tous ces progrès n'auront pas la même traduction en termes de productivité, surtout de création d'emplois, qui est votre souci principal. Partagez-vous ces inquiétudes et qu'est-ce qu'il faut faire ? Confiance à Juncker ?
Vous me prêtez beaucoup de pouvoir ou beaucoup de compétences. Je crois qu'il faut commencer par être extrêmement modeste et extrêmement humble, mais il faut, à mes yeux, en tous les cas, avoir une très très forte détermination, une volonté politique qui passe par une écoute et par une pédagogie décuplée, surtout au moment où on reçoit des informations de toutes parts, dans tous les sens, assez souvent non vérifiées, qui sont porteuses d'inquiétudes inutiles. Et donc, il faut avec humilité essayer de trouver le chemin, essayer d'agréger autour du bon sens le plus grand nombre de gens pour que l'on puisse avancer et qu'on ne reste pas en chemin, comme c'est malheureusement trop souvent le cas pour notre pays, la France, là où d'autres États membres de l'Union européenne, après avoir fait des constats, un diagnostic, comme vous le disiez, souvent parviennent mieux que nous à poser la nécessité des réformes, à faire en sorte qu'il s'agit que le peuple y adhère, sinon le chemin est semé d'embûches, et ensuite donc récolter les fruits des réformes. Il y a pas mal d'États membres en Europe qui y parviennent et qui d'ailleurs voient des résultats qui sont sensibles, ne serait-ce qu'en termes, par exemple, de taux de chômage. On a une moyenne de taux de chômage en Europe qui est relativement haute, mais certains sont très très hauts. Nous sommes dans une moyenne haute, on va dire. Il y a pire que nous, mais il y a beaucoup mieux que nous. Et puisque ma préoccupation principale, c'est l'emploi et donc le développement économique, Et on voit pour notre pays, malheureusement, par exemple, aux dernières statistiques européennes que nous avons eues, que la France, avec la Finlande, mais pour des raisons différentes, la Finlande est un tout petit pays par rapport à notre pays, la France, et l'Autriche sont les trois seuls États membres en Europe qui voient leur taux de chômage augmenter, là où tous les autres, même si dans certains États, je le précise bien, le taux de chômage est plus haut que chez nous, eh bien, tous les autres États membres voient leur taux de chômage baisser, sauf dans trois pays, dont malheureusement le nôtre. Mais pour revenir à votre interrogation un peu malicieuse à propos des hommes ou à propos des acteurs politiques de cette Europe, moi j'ai une certaine confiance dans Jean-Claude Juncker. Il n'est pas de ma sensibilité politique, mais ça fait très très longtemps que j'ai appris que le monde tel qu'il va n'est absolument pas manichéen. Il n'y a pas d'un côté ceux qui auraient toujours raison et de l'autre ceux qui auraient toujours tort. La construction dans notre monde nécessite d'avoir une écoute, de dialoguer, de discuter et de trouver, encore une fois, le bon chemin à emprunter ensemble pour apporter des réponses. Donc je fais confiance à Jean-Claude Juncker. Je fais même confiance aux membres de la Commission, mais même si parfois individuellement, pour certains, ils me déçoivent, on pourra peut-être en parler un peu plus tard en ce qui concerne la lenteur à apporter des réponses à des questions qui sont grosses comme un éléphant au milieu d'une pièce et qui sont là depuis longtemps et auxquelles on met un temps pas possible à répondre. Donc, confiance à Jean-Claude Juncker. En revanche, sur je ne suis pas économiste, je suis plutôt juriste, mais sur la présentation que vous avez faite du débat sur ce risque de stagnation séculaire, je crois que plus que jamais, là aussi, c'est une méthode qu'il faut avoir. Il faut savoir s'adapter. Ce monde bouge à une vitesse vertigineuse et ceux qui, au bord du chemin, ne font que donner des conseils depuis leur écran d'ordinateur ou qui restent sur des schémas anciens, voire archaïques, mettent des freins et empêcheront qu'on avance. Ainsi, on est quand même dans une espèce de conjonction, dans une fenêtre de tir qui, économiquement, pourrait être très favorable à l'Europe et à notre pays en particulier. La baisse du pétrole, les matières premières, la possibilité de doper la recherche, l'innovation, peuvent créer les conditions pour qu'il y ait des gisements d'emplois qui certes seront des emplois nouveaux, mais qu'il ne faut pas négliger. Ça ne veut pas dire, c'est là aussi, c'est pas manichéen, ça ne veut pas dire qu'il faille jeter à la poubelle un certain nombre d'emplois plus traditionnels. Mais il y a des veines là qu'il nous faut travailler, auxquelles on doit croire, tant en nouvelles technologies, en informatique, en numérique, où il y a des défis à relever, dans toute la recherche biologique, comme vous l'avez cité, mais j'y ajouterai aussi tous les gisements d'emplois qui peuvent exister dans le domaine de ce qu'on appelle, maintenant dans le jargon courant, le développement durable, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'environnemental et au développement durable des ressources même humaines, c'est-à-dire réussir à dynamiser ces veines qui sont porteuses d'emplois et qui sont porteuses aussi d'espoir.
Vous parlez comme le pape François, bon, c'est normal à Radio Jéricho.
Ah, je l'aime bien le pape François, il est parfois un peu décoiffant, mais je l'aime beaucoup, je trouve qu'il nous ragaillardit.
Ben voilà un point d'accord, on est d'accord sur le pape François et sur Jean-Claude Juncker, parce que comme vous, j'apprécie ce qu'il fait. Et finalement, il avait répondu par anticipation à un nombre de questions, puisqu'on retrouve de grandes idées dans les 10 points qu'il a présentés devant le Parlement lorsque vous avez voté son investiture. Alors effectivement, je crois que la réponse à cette première question, elle est en termes d'action, d'une façon concertée, coordonnée. C'est bien d'analyser, c'est encore mieux d'agir.
Parlons d'Europe, Jacques Osler.
Jacques, on peut peut-être passer au point suivant, même les 2 points suivants, parce qu'en fait, il y a une unité dans l'idée et les questions que vous avez envie de poser à Madame la députée. Tout d'abord, l'Union européenne face aux évolutions récentes au Moyen-Orient. Je veux simplement souligner, Nathalie Griesbeck, que vous êtes rendue plusieurs fois au Moyen-Orient, vous êtes allé en Turquie, dans les camps de réfugiés. Voilà, je referme la parenthèse. Et puis, deuxième partie de la question, c'est l'Union européenne face à l'explosion des réfugiés. Alors, certains les appelleront migrants, d'autres les appelleront réfugiés. La sémantique a son importance. Expliciter un petit peu ces deux sujets rapidement pour que Madame la députée puisse répondre.
Alors, il y a un lien entre les deux derniers points, mais entre les trois, en fait, on va le voir dans un instant. Alors, l'Union européenne, face aux évolutions récentes du Moyen-Orient, et là, on est en plein dans l'actualité, les grands changements, c'est l'Iran, l'accord du 14 juillet, et l'Iran revient dans la scène internationale, à la fois sur le plan politique, diplomatique, sans doute militaire aussi. C'est le relatif retrait des États-Unis avec le pivot annoncé par Obama qui s'investit davantage en Asie qu'au Moyen-Orient, puisque maintenant avec le gaz de schiste, il est quasiment indépendant. Les États-Unis sont presque autosuffisants. Daesh qui continue, enfin, qui a progressé, qui est, disons, stabilisé, mais qui est une menace non seulement pour cette région, mais pour nous aussi, par le terrorisme et par les flux migratoires qu'on va voir qui sont déclenchés à cette occasion. Et puis enfin, un nouveau revenant qui n'en finit pas de revenir, c'est Poutine, c'est la Russie, qui s'est déjà manifestée en Ukraine et qui maintenant se manifeste en Syrie. Que doit faire l'Europe face à tout cela, et que fait-elle déjà?
C'est une question, enfin c'est pas une question, c'est en fait la marche du monde que vous évoquez et à laquelle vous me demandez de répondre. D'abord, je voudrais peut-être dire un mot sur les 48 heures que je viens de passer, il y a une semaine environ, sur la route des Balkans entre la Grèce jusqu'à la gare de Keleti à Budapest, en passant tous les postes frontières de la Grèce à la Macédoine, depuis Thessalonique jusqu'à la frontière macédonienne, de Macédoine jusqu'en Serbie et de Serbie en Hongrie, où j'ai vu des milliers de gens donc exténués, fatigués, des familles, des enfants, où j'ai vu quelque chose qui ressemblait à une forme de honte pour l'Europe et une terrible crise humanitaire à la veille de l'hiver. À cet égard, l'Europe, c'est ce que j'insinuais tout à l'heure à propos de peut-être la commission Juncker, si Juncker a des propos clairs et une véritable volonté politique, parfois la machine communautaire au sein de la Commission européenne est plus lente à la détente. Mais vous me direz, en fin connaisseur que vous êtes, cher Jacques Osler, que c'est aussi souvent lié au blocage et aux freins que les États membres eux-mêmes mettent avec un art consommé de l'hypocrisie.
Défendre leur souveraineté.
À défendre ce qu'ils appellent leur souveraineté, ouais, parce oui. Qu'au fond, ils se tirent dans le pied. Et la meilleure preuve, c'est justement ce défi redoutable que les Européens ont à relever concernant cette crise humanitaire des réfugiés, qui a permis de distinguer entre un migrant économique qui est dans une difficulté importante, mais pas dans l'urgence, avec un réfugié qui est, lui, dans l'urgence absolue et qui répond aux critères qui sont les nôtres dans les sociétés démocratiques, les critères auxquels on a souscrit à travers les traités internationaux, droit international d'asile et à travers nos traités communautaires, à travers la définition du demandeur d'asile, que peut être un réfugié qui fuit la guerre, la barbarie, etc. Donc là, l'Europe enfin apporte des réponses parce que Jean-Louis Baudou a gentiment rappelé que effectivement, je suis allée à Lampedusa, je suis allée dans les camps de réfugiés à la frontière libyo-tunisienne, je suis allée dans tous les camps de réfugiés. Mais Choucha, c'est un camp de réfugiés entre la Libye et la Tunisie, et à Al-Zaatari aussi, en Jordanie, au Liban, etc. Ça fait des années que ce phénomène migratoire s'est déclenché, et il y a eu un appel qui a été entendu par les réfugiés, qui a été celui d'Angela Merkel, qui est au fond la seule à avoir un vrai leadership en Europe et une vraie conscience de quelles sont nos valeurs européennes. Je ne dis pas pour autant que la solution est facile. Il y a à la fois des décisions à prendre de court terme, elles sont en train d'être prises. Le Parlement européen les appelle de ses voeux et il existe une majorité depuis 3 ans et demi là-dessus. Il y a des opposants, mais il y a une majorité qui existe au Parlement pour aider l'organisation des camps de réfugiés dans les États voisins de l'Union européenne ou sur le territoire européen ou dans des États enclavés en Europe tels que la Macédoine ou la Serbie, qui sont entre des États membres européens, et puis des solutions de court terme, qui sont des solutions de travail étroit avec les pays tiers, de lutte absolument ferme contre les passeurs. J'ai vu moi-même, pendant les 48 heures où j'étais, des gens qui étaient tout à fait des gens sans vergogne, qui entre les mains desquelles les réfugiés pouvaient se trouver, puisqu'ils n'avaient qu'une hâte, c'était transiter par les États membres du Sud pour pouvoir rejoindre l'Allemagne et s'insérer, en tous les cas fuir la guerre, les violences, les viols, la barbarie et les horreurs donc qu'ils ont vécues. Et puis la mise en place des hotspots, alors bon, c'est le jargon là aussi européen, mais d'organisation de l'enregistrement des gens qui entrent sur le territoire européen en même temps que cela permettra de protéger les frontières externes de l'Europe. Donc c'est un défi redoutable que nous avons relevé. Certains disent que c'est le défi le plus important depuis la Seconde Guerre mondiale. Je souscris à cette idée, après avoir vu ce que j'ai vu, des images qui ressemblaient à ce qu'on a vu pour la Shoah, dans des gares, dans des endroits, des gens qui étaient enfermés dans des cages, des enfants en détention sur le sol de l'Europe. C'est quelque chose d'impensable. Mais ça doit être organisé et ça doit être ensuite réparti de manière solidaire entre les États membres et en espérant aussi qu'un certain nombre de ces pauvres Syriens peut-être repartiront dans leur pays après que, dernier élément à cette vraiment énorme question, après qu'une initiative diplomatique aura été prise, voire militaire. Un mot sur Poutine. Je crois que c'est comme avec le diable, il faut discuter avec Poutine, mais avec une grande cuillère. C'est-à-dire, si vous mangez avec le diable, il paraît qu'on doit prendre une grande cuillère. C'était une absurdité diplomatique et un risque immense qu'on faisait courir à la planète en refusant de discuter avec lui. Mais discuter avec lui, ça ne veut pas dire épouser ses causes. Ça ne veut pas dire être d'accord nécessairement avec ses solutions. Et nous nous trouvons dans une situation qui est plus qu'inconfortable au plan des affaires étrangères, puisque notre pays, qui est tout le temps à mi-chemin de toutes les décisions...
Oui, il semble tergiverser, c'est ce que vous êtes en train de dire.
En permanence, sur les migrants, j'ai relu ce que disait le secrétaire d'État aux affaires européennes, Monsieur Désir, Harlem Désir, qui disait en juillet l'inverse de ce qu'il dit aujourd'hui. Et c'est pareil sur notre position au plan de la résolution des crises au Moyen-Orient et en Syrie.
Bon, madame, je vous remercie. On n'a pas les mêmes lectures. Moi, je dis Védrine, qui dit la même chose que vous, et pas ce que dit Harlem Désir.
Ah ben, je suis ravi d'avoir des propos qui ressemblent à ceux de Védrine,
oui.
Et plutôt de me distinguer d'autres.
Oui, parce qu'il faut savoir pratiquer le réalisme. Nous avons l'éthique de conviction.
Absolument.
Et l'éthique de responsabilité. Mmh. On insiste beaucoup sur la première, n'oublions pas la seconde.
Absolument. Moi, j'aimerais juste poser une toute dernière question à Nathalie Griesbeck, députée européenne Grand Est. Madame la députée, est-ce que vous trouvez que l'Europe parle d'une même voix à la fois sur ce dossier des réfugiés et sur ce qui se passe au Moyen-Orient avec le retour dans le jeu politique de la Russie, de l'Iran? Est-ce que l'Europe parle d'une seule voix, ou alors il y a encore énormément de travail et de cohérence à mettre en place?
Évidemment qu'il reste beaucoup, beaucoup de travail. Mais j'aime bien la formule, le balancement éthique de conviction, éthique de responsabilité. L'engagement politique, on en a tout de suite parlé au début de l'émission, ça nécessite de la réflexion, ça nécessite de l'ouverture, ça nécessite de l'adaptation et de la sérénité. Et donc là, l'éthique de responsabilité nous amène à faire en sorte qu'on ait une position qui soit la bonne. Et on est dans un monde de brutes, un monde dangereux, avec des menaces qui sont de nature multiple. Et c'est pour ça que j'ai parlé aussi de sécurité tout à l'heure. Donc les combinaisons d'actions sont très très difficiles. Et l'éthique de la responsabilité, ça doit amener aussi les gouvernants, les personnes investies de responsabilités électives, de réfléchir, de trouver le chemin et de le suivre et de s'adapter. Bien sûr que c'est très difficile de trouver une cohérence. Lorsque j'étais à la gare de Budapest, j'avais à l'esprit la position d'Orban, qui consiste à mettre des barbelés. Je puis vous dire que ces gens qui fuient la barbarie, et si moi-même j'étais syrienne, je partirais avec mes enfants sous les bras, ces gens qui fuient la barbarie, la misère, la violence, les barbelés ne les arrêteront pas. Donc nous avons des réponses à apporter avec les pays tiers, avec les gens qui, dans le monde, ont quelque chose à dire. Les Russes sont depuis longtemps en Syrie. Le problème, c'est Bachar al-Assad. C'est un problème, puisque c'est quelqu'un qui tire sur son peuple et qui maintenant va voir une sorte de consensus se faire autour de lui pour l'aider à éradiquer Daesh, qui est pire que lui.
Puisqu'on parlait de réalisme, c'est celui de l'horloge qui se rappelle à nous. Alors, je vous remercie, madame, d'avoir répondu à toutes questions. Je remercie Jean-Louis.
Merci, Jacques Hossler, d'être venu parler d'Europe avec Nathalie Grispeg, qui, je le rappelle, est députée européenne Grand Est, Mouvement démocrate, qui appartient également à l'Alliance des démocrates libéraux pour l'Europe. Cette émission a été réalisée par Roman Feocchio. On se donne rendez-vous, Jacques Hossler, dans un mois.